Bonsoir Christophe Galfard.
Bonsoir.
C'est parti, La vie à portée de main aux éditions Albin Michel. C'est enthousiasmant, ce livre est vraiment aussi joyeux que passionnant. Ma première question est la suivante. Je voudrais savoir quel souvenir de fête complètement déjantée vous avez quand vous étiez adolescent.
C'est absolument pas public comme
question.
Ah oui.
Néanmoins, vous faites dans votre livre un petit parallèle en disant « Nous traitons la Terre exactement comme une bande d'ados joyeux qui défonce une fête ». Alors, je voudrais savoir quel genre de référence vous avez en la matière.
On peut se référer à des films, sinon. Hein, on n'est pas obligé de faire du vécu.
Non, mais
on imagine bien l'idée qui est que... il y a des actes qu'on peut avoir, qu'on imagine sans conséquence. Et par rapport à l'humanité, j'ai un peu ce sentiment-là où, pendant très longtemps, on a agi en se disant qu'il n'y aurait pas de conséquences derrière. Et alors, j'ai l'air d'être professoral en disant quelque chose comme ça, mais non, tout le monde en a fait partie, c'est quelque chose de collectif. Et effectivement, évidemment, au bout d'un moment, l'adolescence, c'est fini. Et il faut bien réaliser que il faut faire un petit peu attention aux choses.
Et dans votre livre, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a du mal à devenir adulte. Hein. C'est que vous nous soulignez quand même, d'abord, qu'on est parfaitement ignorant d'un mouvement perpétuel. À l'heure où nous parlons, la Terre, le sol, tout bouge. Vous racontez qu'il y a un mouvement qui fait qu'on a un métro de retard, déjà.
Alors, le côté « on a du mal à devenir adulte », là, pour le coup, il est positif.
Okay.
Dans ce sens-là, qui est qu'on n'a pas réellement besoin de devenir adulte. Je ne sais plus qui disait, les enfants sont spontanément philosophes, ils posent des questions, les adultes sont spontanément idiots, ils répondent. Et il y a un peu de ça dans la connaissance scientifique du monde, à savoir que oui, on découvre, on a des réponses. On a tous un héritage de ce qui a été découvert avant nous. Le monde tel qu'on le voit aujourd'hui, personne ne l'a vu tel que nous le voyons avant nous, et personne ne le verra comme ça après. Ça caractérise qui nous sommes, notre connaissance scientifique. Et chaque époque, donc, a sa connaissance, et dans sa connaissance, il y a des limites. Ces limites, loin d'être un frein à quoi que ce soit, c'est un tremplin d'imaginaire. C'est à partir de là où on peut faire un saut de l'ange dans le vide pour aller découvrir des dimensions différentes, des choses qu'on ne connaissait pas, des nouvelles beautés, des nouveaux trésors, des nouvelles applications potentielles, des nouvelles compréhensions sur notre histoire, sur qui nous sommes. Alors quand je le dis comme ça, on peut avoir l'impression que ça ne s'applique qu'à l'univers, qu'à l'espace, qu'à ce qui se passe dans un trou noir, qu'à ce qui se passe par-delà le bout de l'univers. Mais ça a même lieu en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, autour de nous sur Terre, pour le vivant. Dans une sorte de quête de sens qu'on pourrait avoir, la quête, elle existe dans toutes les directions, y compris à l'intérieur de nous-mêmes, voilà, y compris dans le passé, pour essayer de comprendre d'où vient la vie, d'où nous venons, d'où nous sommes. Et c'est dans ce sens-là où je trouve qu'il y a le côté exaltant de l'adolescence qui découvre le monde, et en même temps, celui des adultes qui ont une sorte d'héritage de choses qui nous ont été léguées, de savoir qui nous a été légué.
Et concernant l'espace et le temps, et on le voit bien, là, quand vous répondez à ma question, on voit bien qu'en fait, il faut vraiment se mettre dans une autre dimension, avec d'autres paramètres. Déjà, parce que bon, vous êtes assez rigolo hein, comme scientifique.
Merci.
Vous expliquez que...
Je le prends comme un compliment.
Ah ben, vous pouvez, parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle quand même... qui est sur l'ennui. Vous dites 3 millions d'années... 3 milliards d'années, c'est long. Sur Vénus, plus 465 degrés, c'est chaud. Donc, vous avez un... Enfin, vous nous invitez...
Il y a des choses plus drôles hein, dans le livre.
On va y venir. Vous nous invitez quand même à... observer les choses avec une certaine distance. Et ça, on le retrouve plusieurs fois dans votre livre, c'est-à-dire que vous nous dites, attention, ce qu'on connaît, la réalité telle qu'on la voit, c'est celle qu'on a avec notre éducation, le prisme qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, il faut vraiment, finalement, vous nous apprenez, pour pouvoir voir les choses de façon scientifique, à prendre de la distance.
Absolument. Et surtout par rapport à soi-même. Et par rapport aux propres limites qu'on peut se mettre soi-même. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a mes études en Angleterre, quand je suis revenu en France, j'étais invité à des dîners de temps en temps, et je voyais très bien le regard des gens qui, assis à côté de moi, me demandant « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Moi répondant « de la physique théorique », les gens se liquéfiaient en se disant « mais pourquoi c'est tombé sur moi ? Quel poids c'est tombé ?» Et la phrase d'après était systématiquement, et ça l'est encore un peu aujourd'hui, soit j'ai toujours été nul à l'école, en maths ou en physique, soit j'ai toujours adoré ça à l'école, en maths et en physique. L'idée, c'est de faire référence à l'école. Moi, je m'en fiche de ce qu'on a été à l'école, de ce qu'on a été il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans pour certains. On s'en fiche royalement. L'important, c'est d'être curieux maintenant, d'oublier un peu cette idée que bon, on s'est fait taper sur les doigts, qu'on a eu des mauvaises notes et tout ça. On s'en fiche, c'est vraiment une culture personnelle, comme je disais tout à l'heure, un héritage humain que d'apprendre ce que nos ancêtres ont découvert du monde qui nous entoure. Et ce qu'ils ont découvert, c'est fabuleux, c'est splendide. C'est des tremplins pour les rêves et pour la réflexion dans quasiment toutes les directions. Ça n'a strictement rien à voir avec le sentiment d'avoir une bonne ou une mauvaise note, surtout mauvaise. Ça a vraiment, c'est le sentiment d'avoir une bonne note tout le temps. C'est, en fait, c'est, on n'a jamais vu un enfant se mettre à pleurer parce que tout d'un coup, il a compris quelque chose.
J'ai compris.
Non, ça n'existe pas. Il y a un sourire quand on comprend. Ça fait du bien au corps.
Et vous êtes assez fort hein, pour, alors je sais pas quel mot utiliser, vulgariser en tout cas des découvertes, nous raconter, nous prendre à témoin.
Ce que j'essaie de faire, c'est de tendre la main, en gros, et de faire un trajet aux lectrices, aux lecteurs ou dans les conférences. C'est de prendre par la main et de dire, viens, on y va ensemble. Ça va pas être facile tout du long, mais franchement, on va s'amuser.
Et on s'amuse, hein, parce que
y a, bah, d'abord, chaud.
Vous nous invitez, ça. Vous nous invitez à être une mouche à fruits. Après, on est un ficus. Après, on est une plongée dans le corps humain dont vous dites on n'a pas d'œil interne, en tout cas pas officiellement. Je voudrais savoir ce que veut dire le pas officiellement.
Bah, certains pensent qu'il y en a un. Ben, il n'y en a pas.
D'accord. En tout cas, vous nous invitez finalement à vivre en lisant presque physiquement les choses. Et le physique est en jeu dans votre écriture. Par exemple, vous parlez des sens et vous nous dites, bah alors c'est super, c'est une première approche, mais c'est pas assez.
L'être humain, si on doit y trouver une différence avec les autres animaux, mais bon, dans le livre, toutes ces différences, on comprend qu'elles sont ténues finalement. Mais notre vision du monde est basée sur ce que nos sens perçoivent. Nos sens, c'est un peu nos fenêtres sur la réalité. Alors, on peut chacun avoir des fenêtres un petit peu différentes. On peut avoir des fenêtres qui marchent plus ou moins bien. Mais si on prend collectivement toute l'humanité, ce n'est qu'à travers nos cinq sens qu'on a pu comprendre un petit peu la façon dont les choses fonctionnent autour de nous. Il y a quelque chose qui est amusant grâce à ces observations qu'on fait, c'est qu'on a toutes et tous, au fond de nous, l'intuition qu'il existe des lois dans la nature. Que vous ayez fait ou non de la physique ou de la chimie ou des sciences, on a tous et toutes cette impression-là. Je vous donne l'exemple que je donne d'habitude, hein, vu qu'on est là, que j'ai une bouteille. Eh ben, je vais vous la lancer dessus. Voilà. Bon, monsieur, là, au milieu, vous attrapez. D'accord. J'ai pas besoin de le faire pour que tout le monde sache que le verre va vous tremper. Et comment vous avez su ça? Vous pouvez prédire le futur parce que vous avez en vous l'intuition qu'il existe des lois dans la nature, que mon verre, si je le lance par là, eh ben, il vous tombera dessus et vous serez trempé. De cette remarque anodine, petit à petit, depuis les Grecs anciens, voire depuis nos ancêtres, depuis la découverte du feu peut-être, on a bâti une compréhension de la réalité qui nous entoure. Et ça a pris du temps dans certains domaines, et dans d'autres aussi, mais ça fait partie du genre de blague que je peux faire. C'est pas extraordinaire, mais voilà. Dans certains domaines, ça prend du temps. Et il y a des périodes dans l'histoire de l'humanité où les découvertes s'accélèrent. Nous, on en fait partie là maintenant dans plein de domaines différents. Par rapport à l'univers, etc., depuis 100 ans, on a révolutionné tout ce qu'on pensait. Et par rapport à la biologie, par rapport à qui nous sommes, nous, c'est devenu absolument phénoménal depuis une cinquantaine d'années. Par rapport au vivant, par rapport à la recherche de vie extraterrestre, par rapport à tout ce qui a trait au vivant. Et dès qu'on rentre dans ces domaines-là, on réalise que ce qu'on arrive à comprendre avec nos cinq sens a certaines limites. Parce que notre monde Et notre réalité contient des signaux, des informations que nos sens ne perçoivent pas, que nos sens ne sont pas faits pour percevoir. Donc c'est que la puissance des esprits de nos ancêtres et de certaines personnes aujourd'hui qui nous ont donné accès à l'invisible. Et ça, je trouve ça merveilleux.
Oui, et tout à l'heure, je parlais de distance pour mesurer les choses avec d'autres mesures de référence. Il y a aussi le fait que vous nous invitez à observer qu'on fait partie de quelque chose de bien plus grand que ce qu'on imagine.
Ça, c'est vrai. En gros, quand je parle d'au-delà des sens, c'est une invitation à lâcher prise, à pas se dire « je vais comprendre, je vais pas comprendre », mais d'être comme un enfant qui découvre le monde. Pour un enfant, tout est magique ou tout est loi. Tant qu'on n'a pas vu les répétitions, tant qu'on n'a pas vu les conséquences, on découvre tout. Mais il se trouve que dès l'instant où on dépasse ce que nos sens peuvent nous apprendre, dès qu'on dépasse ce qu'on a appris, dès qu'on dépasse l'intuition, notre sens commun, en fait, le monde est différent. Et tout le monde y a accès. La seule chose dont on a besoin, c'est un peu d'imagination.
Oui.
Et d'humour.
Oui, ça, on a bien compris. D'ailleurs, vous faites réapparaître le petit robot jaune qui nous avait balancé dans un trou noir dans votre précédent livre. Là, je ne dis rien, mais il est à nouveau présent. Et cet humour dont vous parlez, c'est aussi votre façon de rendre très lisible ce livre comme une histoire. Donc, c'est très facile et c'est très abordable pour nous remettre à l'intérieur d'une histoire finalement qui nous concerne.
Oui, c'est un livre qui parle de nous complètement. Et ce côté humour, en fait, au fond, l'idée, c'est un partage, cette connaissance, que ce soit dans mon livre, que ce soit ce qu'on apprend à l'université ou ce qu'enseignent les professeurs, c'est un partage. Ce partage, il peut prendre mille formes. Moi, j'ai une envie, c'est de désacraliser l'accès à ce savoir-là. Que le grand public puisse faire partie de l'histoire, de l'aventure, qu'on comprenne ce qu'on sait aujourd'hui, où sont les limites. Quand quelqu'un dit « je sais pas », eh ben c'est parce qu'on ne sait pas encore, parce qu'on est en train de découvrir des choses et de savoir ce que ça signifie. C'est ça que j'ai envie de faire.
Et dans votre livre, on découvre aussi, donc vous l'avez dit, que finalement, les sciences, ça va avec la nécessité de l'imaginaire. Déjà, parce qu'il faut essayer de se représenter le monde avant. Et ça, on se rend compte en vous lisant que c'est pas si simple.
Déjà, c'est pas si simple, mais il y a quelque chose. Comment est-ce qu'on découvre quelque chose de nouveau dans l'univers, ou en biologie, ou en quoi que ce soit? Il y a plusieurs manières. Mais en général, en tout cas aujourd'hui, le point de départ, c'est la connaissance qui arrive jusqu'à nous. Et pourquoi est-ce qu'il faut l'apprendre, cette connaissance-là? Parce que ça donne une structure. Et en fait, il n'y a de découverte que lorsqu'on va voir quelque chose qui ne correspond pas à la structure qu'on avait. Si on n'a aucune structure, rien ne peut paraître étonnant, vu qu'on ne s'attend à rien. Si jamais cette idée de verre lancé, si on n'avait pas l'intuition de quoi que ce soit, je pourrais le lancer par là, il pourrait faire un looping dans l'air et tomber à côté de moi, se poser comme ça, et personne ne serait surpris, si on ne s'attend pas à quelque chose. Donc le fait d'avoir une structure permet de se dire, ah, si on a bien compris, lorsqu'on fait tel mouvement, lorsqu'on regarde tel objet ou telle chose, telle énergie, on devrait voir ça. Si on ne voit pas ça, là, c'est génial. Parce que ça veut dire que soit il manque quelque chose d'invisible, qu'on n'avait pas vu, qui est peut-être là, soit il faut changer de point de vue. Et ça, c'est systématiquement comme ça que la science avance. À un moment, il faut changer de point de vue.
Donc, il faut de l'imagination.
Il faut de l'imagination.
Ce qu'on voit dans votre livre aussi, c'est que finalement, là où on est moins ignorant maintenant, mais c'est pas si vieux, c'est tout ce qui touche aux micro-organismes. Vous parliez du corps humain, donc il y a vraiment tout un chapitre où on plonge à l'intérieur et où on découvre qu'on a 30 000 milliards de cellules. C'est ça?
Oui.
C'est ça.
Vous, hein, j'ai compté les vôtres.
Oui, bien sûr. Ouais. Évidemment. On apprend aussi que le centre régulateur de ces cellules est transmis par la mère. Je me trompe?
Pour l'énergie. Pour l'énergie. La source d'énergie, oui.
Ah, tout s'explique.
Oui, absolument. Je laisse à chacun la liberté d'interpréter les choses à sa manière.
Mais en tout cas, ce qu'on voit bien, voilà, en fait, voilà, sur le corps humain, entre autres, mais même sur le ficus, c'est assez rigolo. Ce qu'on voit bien, c'est... Donc là, les grands progrès qu'on a fait dernièrement, c'est sur le micro-organisme.
Disons que ce qui est visible à l'œil nu l'a toujours été. Mais depuis quelques décennies, nos technologies nous ont permis d'un côté de voir dans le très grand, mais aussi dans le très petit. Et alors, mieux que ça, on a réussi à rentrer dans le corps humain pour voir comment fonctionnent des cellules vivantes, des cellules qui sont en train de fabriquer des choses. Ça, c'est complètement nouveau, d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont en jeu à l'intérieur de nos corps. Et on n'a pas encore de vision globale, de compréhension globale de son fonctionnement. On a fait des découvertes absolues. Quand je dis « on », c'est pas moi, hein, c'est les scientifiques, qui, hommes et femmes des 50, bah, depuis toujours, disons, qui ont petit à petit avancé cette connaissance. Mais là, on arrive à voir des choses et comprendre des choses qui ont des potentiels incroyables en médecine, en compréhension du vivant, en compréhension de ce qui nous relie aux autres organismes vivants. Et vous parlez des organismes microscopiques, les tout petits, et ben eux, on peut les voir, tout simplement. On peut les étudier, on peut les voir, on peut voir quelle est la différence avec nous. Et je vous donne un exemple d'une chose qu'on... En fait, je peux dire un truc par rapport au livre.
Non, c'est fini.
Dans le livre, le but... Les premiers chapitres, vous découvrez une des premières théories du vivant scientifique qui est fonctionnée, c'est la théorie de l'évolution. On découvre comment elle est arrivée. Et cette théorie, elle dit quoi, en gros, qui nous intéresse pour le livre en particulier, elle dit que le vivant lui-même a une histoire. Les choses qui ont une histoire, en général, ont un début, et peut-être une fin. Mais en tout cas, elles ont en général un début. Si les choses sont statiques et ne bougent pas, comme était la vision la plus populaire avant que l'évolution n'arrive, la vision était que toutes les espèces, tout le vivant avait toujours été sur Terre depuis le début tel quel. L'évolution dit non, les choses ont changé, donc il y a une histoire, donc il y a peut-être un début qu'on peut trouver, qui serait éventuellement pas divin. Ou peut-être divin, j'en sais rien. Mais en tout cas, la question se pose. On peut commencer à chercher. Dans le livre, juste après... C'est vous qui vous réveillez dans une clairière au milieu d'une forêt. Et je sais pas ce qui vous passe par la tête, mais vous êtes en regardant les arbres, le ciel, les nuages, les brins d'herbe, les insectes, les papillons, les poissons. Vous vous dites, mais ça vient d'où? Et tout le bouquin va être une tentative de répondre à cette question. C'est vous qui allez partir en exploration. Au début, sur Terre, vous allez essayer de retrouver des traces du passé qui traîneraient à gauche, à droite, et comprendre comment on a compris que c'était des traces du passé et d'où elles viennent. Et ensuite, comme vous le disiez, à l'intérieur de nos propres corps, parce qu'en creusant, on va très loin, des histoires très marrantes, mais ça s'arrête au bout d'un moment. Et pour pouvoir aller plus loin encore qu'en creusant, on peut creuser en nous. Ce qu'on arrive à atteindre dans le passé, en nous, dans nos propres corps, dans les cellules, en les comparant à celles des autres animaux notamment, nous fait aller plus loin encore que toutes les archéologies qui existent sur Terre. Et à partir de là, on comprend comment fonctionne la médecine, ce que c'est qu'un virus, ce que c'est qu'un vaccin, comment ça fonctionne, une infection, toutes ces choses, comment on peut les combattre, et éventuellement comment on pourrait trouver de la vie ailleurs dans l'univers.
Et pour rester sur le corps humain, effectivement, on a l'impression quand même, en vous lisant, puisque, comme vous le dites, hein, c'est un travail d'exploration qui est à la fois sur la terre, dans l'espace, sur de la végétation, enfin du vivant en général. Ce qu'on a l'impression, c'est que quand même les mots extinction et éruption ont disparu de notre vocabulaire, alors que c'est un vocabulaire qu'on devrait avoir, parce que vous nous expliquez dans votre livre que il y a déjà eu 5 extinctions, que c'est un processus finalement qui fait partie du vivant.
Il y a eu 5 extinctions massives.
Oui, c'est ça, massives. Les autres sont plus modestes.
Ils sont plus modestes, mais il y en a eu des centaines.
Oui, oui.
Des dizaines et des dizaines, en tout cas. Et oui, le vivant se retrouve dans le temps systématiquement confronté à des changements drastiques qui peuvent arriver à un moment ou à un autre. et ou graduel d'ailleurs, mais drastique, ça peut être dû à une sécheresse, ça peut être dû à une à un réchauffement, un refroidissement. Dans le passé, il y en a eu plein. Ça peut être dû à l'oxygène qui est arrivé dans l'air. Quand notre Terre est née, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. C'est le vivant qui a créé cet oxygène et qui a décimé un nombre incalculable d'autres espèces vivantes. Parce qu'à la base, l'oxygène, c'est un poison. Ça fait de la rouille, en gros. L'oxygène, c'est ce qui fait rouiller les choses. Pareil pour le vivant. Ça démolissait le vivant. Donc, il a fallu que le vivant s'adapte à cette présence d'oxygène. Tous ceux qui ne se sont pas adaptés ont été éradiqués. Et avant de réussir à comprendre comment utiliser cet oxygène pour être plus fort, en gros, pour avoir plus encore d'énergie. Donc oui, le vivant sur Terre, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des obstacles partout. Toutes les espèces qui existent encore aujourd'hui, nous, les insectes, les animaux, les bactéries, tout ce que vous voulez, on est tous les survivants des mêmes catastrophes. On est tous passés par la même histoire et y en a effectivement eu plein des extinctions. Et il y en a une qu'on crée, nous, en ce moment aussi, mais et qui est d'une... Alors, je sais pas si on peut dire que c'est plus rapide que l'impact d'un météorite, par exemple, d'une météorite ou un météorite, je sais jamais. Je crois qu'on peut dire les deux. Et pourtant, je travaille là-dedans.
Je vous laisse la responsabilité de cette petite réflexion.
Et oui, il y a eu des extinctions extrêmement rapides.
Vous nous dites ça de façon très détendue, comme vous, dans le livre, vous nous dites que vous êtes dans une clairière paisible, et là, tout d'un coup, il faut plonger dans des abysses, fuyez, partez en courant. Enfin, voilà, c'est assez rigolo. Il nous arrive des aventures en vous lisant. Et en même temps, vous nous dites que finalement, on n'est pas préparé à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on veut lutter contre ça.
Oui, je ne nous souhaite pas de nous éteindre bientôt. Je préférerais que non. Mais rien que de découvrir le passé tumultueux de notre planète, c'est comme tout en science. Ça me fait à chaque fois penser au Petit Prince, le Saint-Exupéry, dans l'idée où il a un renard qu'il veut apprivoiser. Bon, tant que c'est pas son renard apprivoisé, si c'est un renard lambda, s'il se fait écraser par une voiture, franchement, tout le monde fait « c'est triste », mais tout le monde s'en fiche. En revanche, c'est vrai. Mais en revanche, si c'est notre renard, si c'est celui qu'on a apprivoisé, alors là, ça change absolument tout. Et je pense qu'à travers la connaissance scientifique, on peut apprivoiser notre monde. Et notre monde peut nous apprivoiser, nous. Et du coup, on a un rapport un peu différent avec la planète tout entière, où il y a une sorte de responsabilité commune qui apparaît, et on change notre point de vue avec ça. Où les choses ne deviennent plus des contraintes individuelles, mais c'est un équilibre qu'on a avec une planète qui nous aurait et qu'on aurait apprivoisé.
Vous le disiez tout à l'heure, vous démarrez le livre à un moment donné, donc finalement on démarre avec Darwin, Wallace et puis assez rapidement Newton, un peu les trois mousquetaires de votre livre, c'est assez rigolo. C'est vraiment un point de départ important pour la science, la fin du 19e.
Ah oui, totalement. Newton, c'était un peu avant, mais dans l'idée, il y a eu à certaines époques des personnes qui soit ont fait faire un bond en avant à l'humanité, soit ont réuni à rassembler une somme de connaissances pour la digérer et la transformer en ces fameuses lois dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, ben, la recherche d'une loi par rapport au vivant, une des premières à avoir été réussie, c'est l'évolution par sélection naturelle de Darwin, de Wallace et de personnes et d'autres aussi qui ont pu intervenir. Pour Newton, je vous donne juste pour moi pourquoi Newton est complètement fou. Il y en a plein. Ok, je crois que je le raconte dans le livre. Ces lois qu'intuitivement on sent exister. Aristote l'avait dit déjà. Il avait dit il doit y avoir des lois cachées dans la nature, et ça a été un des premiers à essayer de les trouver, ou en tout cas à commencer à classer les choses pour voir comment ça fonctionne. Mais dans sa tête, dans sa vision du monde, ces lois, elles s'appliquaient à la Terre, c'est-à-dire à notre berceau à nous, dans notre capsule de réalité, qui est la capsule humaine. Et en fait, ça allait jusqu'à la Lune. Tout ce qui était sous la Lune était le domaine des humains, on pouvait comprendre des choses. Au-delà de la Lune, non, plus, c'était le domaine des dieux. Newton, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé une loi qu'il a appelée la loi de la gravitation universelle. Ce petit mot, c'est universel, qui dit que ça marche sous la Lune, mais aussi à l'extérieur. Tout d'un coup, on a une loi qui nous a permis de rêver, de penser l'univers tout entier. Avant Newton, c'était pas ça. On pouvait pas. Donc rien que d'un point de vue imaginaire, le bon, il est spectaculaire. On a un peu du même ordre de grandeur avec, des Darwin, des Wallace ou des Lamarck, pour parler d'un Français qui était là un peu avant aussi, où on a soudain une loi qui va nous permettre de comprendre le vivant. C'est-à-dire déjà nous potentiellement nous sortir de notre piédestal d'organismes qui seraient différents des autres, qui aurait une histoire qui serait différente des autres. Non, on fait partie de la même histoire que tout le reste. Et donc, c'est les bases. À partir de ça, on a des bases. On peut réfléchir et voir les conséquences. Et une fois qu'on a les conséquences, on peut voir s'il y a des choses qui fonctionnent ou pas. Et faire donc d'autres découvertes. Alors, vous avez cité Newton, Darwin et Wallace. Mais il y a énormément d'autres scientifiques dont je parle dans le livre, notamment des femmes qui ont eu des idées et qui ont fait des découvertes absolument phénoménales et qui ont souvent été invisibilisées. Mais je pense que c'est pas. Il se trouve qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont été invisibilisés dans la carrière, sauf que les hommes ont été invisibilisés par d'autres hommes et les femmes par des hommes. Du coup, au final, il n'y a plus de femmes. Mais l'invisibilisation est de rigueur en science, de manière générale. Il y a des gens qui disent qu'une découverte, il y a trois temps dans une découverte. Il y a la personne qui fait la découverte. Il y a le moment où tout le monde le regarde en disant « c'est complètement faux ». Allez, on va dire quatre temps, parce que c'est plus drôle encore. C'est complètement faux. Ensuite, il y a les gens qui disent « ah oui, mais je le savais ». Et enfin, la découverte est actée lorsque elle est attribuée à la mauvaise personne. Voilà.
Oui, parce que je prenais un exemple, donc c'est ces personnages-là, parce que vous démarrez votre histoire avec eux, et après, on va croiser effectivement énormément de personnages. Et on se rencontre, une des particularités de votre livre, c'est de nous inviter à nous rendre compte aussi de ce qu'est être un scientifique. Et vous nous racontez les histoires qu'il faut aussi que, comme vous le dites, un scientifique n'est pas cru, en tout cas au bon moment, et qu'il faudra attendre 100 ans avant que sa découverte, tout d'un coup, apparaisse comme quelque chose d'évident. Il y a aussi, des vrais traumatismes, puisque vous parlez de scientifiques qui sont désespérés de se dire « c'est pas du tout ce que je croyais », et qui sont très affectés au point, en fait, vraiment de mettre en jeu leur propre santé. En fait, la vie du scientifique est aussi abordée dans ce livre comme quelque chose qui est quand même... quelque chose d'assez costaud. Alors quoi, il faut être résistant?
De toute façon, quand on a une idée nouvelle, qu'on soit scientifique ou non, on se heurte forcément à des obstacles. Toujours. C'est jamais facile de faire changer d'avis quelqu'un sur une vision, sur une croyance, sur quoi que ce soit. C'est quasi impossible. Donc quand quelqu'un a une idée nouvelle, il y a une lutte forcément derrière. Il y a forcément une lutte, mais... La plupart du temps, la découverte elle-même crée une telle joie et une telle puissance interne qu'elle permet de lutter. Mais parfois, c'est difficile. Ouais, parfois, c'est difficile.
Oui, on voit bien qu'il y a des périodes où on y croit et d'autres où on n'y croit pas. Et pour revenir à l'espace, en fait, vous nous invitez aussi à observer les autres planètes d'une autre façon. Alors, pas du tout telle qu'on la connaît jusqu'ici. C'est une approche presque sensorielle de la planète. Je parlais tout à l'heure de chaleur pour Vénus. Vous nous invitez à découvrir l'impact des météorites, la raison pour laquelle ça ne change pas, quand on est sur la Lune. En fait, c'est presque, encore une fois, une façon physique d'appréhender la science pour mieux en faire partie.
Il y a plusieurs manières, je pense, de faire des sciences. Il y a le travail de chercheur qui va souvent utiliser des équations ou des expériences, etc. Et c'est un petit peu parfois compliqué à expliquer précisément. En revanche, de donner l'émotion de ce qu'on peut ressentir, ça, c'est possible. Ça, je pense que c'est la puissance de la littérature, pas forcément de ma plume, hein, mais c'est la puissance de l'écrit et notamment d'une narration. Les narrations, la narration, c'est vraiment ce qui nous réunit tous et toutes, qui qu'on soit, quel que soit notre domaine, on aime tous ces histoires, tout le temps. Et ben avec ces histoires, on peut ressentir des choses, on peut ressentir la vie d'autres personnes, et je pense qu'on peut aussi ressentir des découvertes et comprendre des choses par rapport au monde qui nous entoure. Par exemple, moi, la façon dont j'aime raconter la science, c'est non pas en l'expliquant, mais en la décrivant. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a beaucoup de scientifiques qui font ça aussi, notamment dans les domaines théoriques, où on fait ce qu'on appelle des expériences de pensée. Une des plus connues, c'est celle d'Einstein, qui, se demandant comment se comporte la lumière, se dit « bon, ben, je vais m'asseoir sur un photon ». C'est une particule de lumière. Donc imaginons que je m'assois sur un photon. Je vais à la vitesse de la lumière. Comment je vois le monde? Si j'ai un miroir devant moi, est-ce que je me vois dedans? Posez-vous la question. Est-ce que... bon, ce genre de questionnement, c'est très visuel. C'est très... on n'a pas besoin d'avoir fait des mathématiques ultra poussées pour comprendre ce genre de questionnement. Eh ben, toutes les expériences que je fais faire aux lecteurs et aux lectrices dans le livre, ce sont des expériences de pensée de cet ordre-là, où on va aller découvrir comment les choses se passent en s'y plongeant. Dans l'univers à portée de main, par exemple, pour comprendre ce qu'était un trou noir, ben je vous ai tombé dedans. C'est le petit robot jaune qui poussait le lecteur et la lectrice dans le trou noir, et je vous décrivais ce qui allait vous arriver. Pour la physique quantique, c'était pareil. Là, c'est pareil pour le vivant. Pour comprendre les choses, je vous y envoie. Pour comprendre comment est l'évolution, comment la Terre a arrivé jusqu'ici, eh ben vous allez voyager dans le temps. Vous allez vous prendre le météorite, l'astéroïde qui a tapé sur les dinosaures dans la tronche, et voir comment ça se passe. Et on arrive à savoir ça grâce à des découvertes qui ont moins de 5 ans. Parce qu'on a trouvé des endroits où on peut lire ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi l'impact. Donc ça, je le recrée en une histoire. Pour comprendre ce qu'est votre corps, ben, je vous fais plonger dans une cellule de votre propre corps. Ça, c'est la partie un peu compliquée du bouquin, je vous le dis. Hein. C'est la partie où il faut un peu s'accrocher, mais il y a des cadeaux.
Ça va, franchement, c'est pas si compliqué. Mais ça veut dire quoi? La question qui reste, la grande question majeure, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'origine.
Je pense, pour plein de raisons, c'est... on sait pas comment... l'inanimé est devenu animé. Est-ce que soudain, je mets pas mal d'hypothèses qu'on essaie de décortiquer dans le bouquin. Est-ce que il existe un fluide vital qui serait là autour de nous et qui serait concentré dans le vivant, rendant vivant ce qui est vivant? Ou est-ce que c'est vraiment l'inanimé, les atomes, les mêmes que dans de la roche ou dans de la poussière, qui deviennent vivants parce qu'ils sont assemblés d'une certaine manière? Et puis ça veut dire quoi, être vivant? Bref, il y a toutes ces questions qui se posent, et je pense que la compréhension de l'origine du vivant répondrait à énormément de ces questions, notamment de savoir s'il existe beaucoup de formes différentes de vivants sur Terre. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y en a que 3-4 si on met les virus dedans, mais sinon il n'y en a que 3. On voit qu'on a une origine commune. On peut lire dans le vivant d'aujourd'hui qu'il y a une origine commune à tout le vivant qui existe sur Terre. Tout. Hein. Quand je dis tout, c'est pas les singes et nous. Tout le vivant, y compris les plantes, les bactéries, d'autres choses qu'on appelle des archées qui peuvent potentiellement vivre dans des conditions extrêmes. C'est tout à la même origine. Donc, on se dit, ah, bah, peut-être qu'on peut la trouver, cette origine. Et mieux encore, si on la trouve, ou si on en trouve ailleurs sur notre planète, avec ce qu'on a compris ces derniers temps, on pourrait éventuellement comparer si la vie sur Terre est faite de la même chose que la vie ailleurs, vice-versa. Ou s'il y a plusieurs manières d'être vivant dans notre univers, ou s'il n'y en a qu'une. Si on est seul, ou si on est pareil. En vrai, il y a plein de choses chouettes à découvrir.
Donc, ça veut dire quoi? L'arbre d'Avatar existe vraiment? Il y a un arbre général qui nous relie tous?
Alors, pas forcément qui nous relie physiquement. Alors, quoique, c'est pas si exclu que ça, mais faut pas le prendre trop littéralement, ce que je dis là. Mais il y a un chapitre que j'avais bien aimé écrire, parce que je trouvais l'image jolie, où je compare, je crois que je ne suis pas le premier à l'avoir fait, il y en a d'autres qui avaient utilisé cette métaphore-là, où on compare le corps humain à une fontaine, ou le vivant à une fontaine, ou à une, ou un torrent, une cascade, si vous voulez. Si vous prenez une cascade dans la montagne, elle est faite d'eau, mais il n'y a pas une goutte d'eau qui reste dans la cascade. La cascade n'existe que parce que l'eau passe. Le vivant, c'est pareil. On a l'impression que ce qui fait nos êtres est là, ne bouge pas. Peut-être qu'on en rajoute un peu en mangeant. Mais en gros, c'est là, hein, c'est en nous. Et qu'une fois qu'on meurt, ben, là, tout s'en va d'un coup. Ben non. Il n'y a quasi aucun des atomes qui est en nous qui demeure en nous. Les choses, on est une forme de cascade faite de particules, de molécules qui sont tout autour de nous et qu'on partage avec quasi la totalité du règne animal vivant sur Terre aujourd'hui et dans le passé. C'est-à-dire que vous avez toutes et tous en vous des molécules qui ont appartenu à des dinosaures. Je vois ceux qui en ont plus que d'autres, mais en gros, on en a tous et toutes. En fait, on a aussi en nous des molécules qui ont appartenu à tous les autres êtres humains qui nous ont précédés sur Terre. Il y a un échange permanent. Alors, c'est pas la même chose qu'Avatar, où on peut éventuellement discuter avec eux, etc. C'est pas ça. Mais il y a une connexion matérielle qui existe.
De toute façon, on voit bien, en lisant votre livre, tous les points de référence qui sont utilisés pour des films, pour des blockbusters comme Avatar ou Jurassic Park. Enfin, c'est assez rigolo, parce qu'on voit bien la source qui permet à la culture, après, de se nourrir de narratifs assez intéressants. Vous avez fait référence tout à l'heure au Petit Prince, et dans votre livre, il y a aussi une dimension qui, à un moment donné, est forcément poétique ou philosophique. Et en cela, votre livre est intéressant. Et on le sait bien, la science, ce n'est pas que la science. La science, ce sont des tas de spécificités différentes qui se rencontrent pour pouvoir élaborer quelque chose.
Dorénavant, oui, on n'a plus le choix que de mélanger les savoirs et les connaissances pour faire des bons. Et ça fait partie des choses que j'ai trouvé un petit peu difficiles d'accès. C'est-à-dire que, par exemple, sur les cellules, il y a quelques visions globales, mais la plupart des travaux sont faits sur des choses particulières à l'intérieur des cellules, notamment dans un but thérapeutique ou médical. Et la vision globale de compréhension de l'histoire, de ce qui se passe, c'est en retrait par rapport à tout ça. Il y a des gens qui travaillent dessus, hein. Je ne dis pas que... Il y a des gens qui font des découvertes extraordinaires, mais ce n'est pas la majorité. L'immense majorité des gens travaillent sur des aspects un peu médicaux et qui sont phénoménaux, hein, qui nous ont permis de faire des découvertes extrêmement bénéfiques pour l'humanité. Mais quand on veut avoir une sorte d'histoire globale, eh ben,
c'est un petit peu différent.
J'ai pas mal de biologistes qui m'ont dit qu'ils ont pris ce pas de retrait.
Ah oui ?
Oui, grâce à ça. Ou même de physiciens dans l'univers à portée de main. Ou d'astrophysiciens, quand on travaille sur un sujet précis, on a parfois du mal à... On n'a pas le temps, peut-être aussi, de se faire une vision globale de ce qui existe. Ça offre un peu ça, ce livre.
Et vous, qu'est-ce que vous avez découvert d'incroyable en écrivant ce livre ?
Ah, plein de choses. J'ai mis 8 ans à l'écrire. Donc moi, j'ai plongé dedans et je suis devenu... C'est complètement fabuleux. En fait, j'ai tellement halluciné sur la quantité de connaissances qu'on a accumulé depuis 100 ans, disons, même moins 50 ans, que j'ai trouvé ça incroyable que ce ne soit pas partagé avec tout le monde. Ça change la vision dont on comprend ce que nous sommes, en réalité. Mmh. Et c'est important, je trouve, que tout le monde sache ce genre de choses.
Ça change le comportement. Parce que quand on lit votre livre, évidemment, en fait, vous nous invitez à être tout d'un coup, je le disais tout à l'heure, on est une plante verte, on est un petit animal qui vole, qui est minuscule, on est à l'intérieur de nos cellules. Donc, on ne peut pas fermer votre livre de façon anodine et continuer de faire ce qu'on était en train de faire sans avoir appréhendé le monde autrement. Donc, quand même, il est question de comportement dans votre livre.
Là, pour le coup, je laisse vraiment une liberté totale à... Dans tous mes livres, à chacune et à chacun d'interpréter les choses comme bon semble.
Et vous, après l'avoir écrit, ça a changé votre comportement ?
Ben moi, je suis scientifique déjà.
Et alors ?
À la base. Et je pense que la science elle-même a changé mon comportement, oui. ce livre clairement dans ma vision de ce qu'est le vivant sur Terre et de l'interaction entre le vivant et la Terre elle-même, et dans la recherche de vie extraterrestre, et dans ma compréhension de notre position dans l'univers, etc. Mais je pense que cette vision-là, elle change en permanence. Il y a une nourriture dans cette connaissance-là qui est... Je sais pas, c'est du nectar, quelque part.
Vous parlez des extraterrestres dans ce livre, et donc, évidemment, c'est quand même le sujet... à la fois mystérieux, qui captive tout le monde, qui est aussi source de narration à nouveau, qui peuvent partir dans tous les sens. Et donc, est-ce que c'est l'endroit, vous pensez, qui est quand même le plus difficile, le plus délicat en termes d'exploration, de recherche, de spéculation ?
Je ne sais pas si c'est l'endroit le plus délicat. En tout cas, c'est un des endroits qui, moi-même, me fascine le plus. Et une autre des raisons pour lesquelles j'avais envie d'écrire ce livre, c'était que je m'étais dit, bon, imaginons qu'on découvre des extraterrestres dans 10 ans. Hein, je sais pas, pourquoi pas. Et ben, j'aimerais bien qu'on sache où on en est dans notre connaissance du vivant sur Terre avant qu'ils débarquent.
Donc c'est un genre... Peur de leur faire un petit topo quand
oui,
ils arrivent.
Même pour nous,
bah oui.
Avant qu'on soit trop mélangés, etc., qu'on sache un peu où on en était avant. Et qu'on comprenne ce qu'est la vie sur Terre pour pouvoir comparer et comprendre des choses. Donc, personnellement, moi, j'adorerais vivre le moment où on découvre des extraterrestres. Ce serait trop cool.
Là, vous, dans votre livre, vous racontez que vous êtes adolescent, vous êtes devant la télé, vous assistez, en fait, à la comète.
Schumacher-Lévy.
Voilà. Je vous laisse te raconter. Mais alors, ça, c'est le point de départ aussi, de votre enthousiasme.
En fait, c'est un peu un flip, là, à l'époque. Parce, je ne sais pas si certains ou certaines parmi vous s'en souviennent.
Oui, mais de votre fascination, quand même, pour la science.
Non, j'étais déjà dedans. Ça, c'était en 94. Je m'intéressais déjà pas mal. Et j'étais plus sur de la physique théorique, moi. J'aime bien voyager par la pensée. Ça me plaît vachement. Où on peut aller où on veut. Avec la pensée, et on a besoin de demander la personne, l'autorisation à absolument personne. On peut aller où on veut. Ça, je trouve ça génial. J'ai pas du tout envie d'aller dans l'espace, par exemple. Ça ne m'intéresse absolument pas. D'autant plus que dans l'espace, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la Terre en se disant, je redescendrai bien quand même. Alors que quand on est sur Terre, on regarde l'espace en se disant, waouh, c'est beau. Donc ça m'intéresse pas trop. Cela étant, en 94, quelques mois après avoir été découverte, Une comète s'est écrasée à la surface de Jupiter. Et dit comme ça, on pourrait se dire, bon, mais il y a tout le temps des cailloux qui tombent partout, c'est normal. Sauf qu'avant cet événement, l'immense majorité des scientifiques ne pensaient pas que c'était possible. Ne croyaient pas, notamment, que les dinosaures avaient succombé en partie à cause d'un impact de météorites. De voir ça, de se dire... On l'a découvert 4 mois avant, c'est-à-dire qu'en gros, si c'était tombé sur Terre, on serait mal. Ça fait réfléchir. Parce que soudain, on se met dans une temporalité qui est différente, dans des échelles de violence qui sont complètement différentes. On parle d'impacts qui valent des milliers, voire des millions de fois de bombes atomiques. Plein. Pas bon. Et du coup, ça fait réfléchir. Aujourd'hui, ça existe des sentinelles, disons, d'observation du ciel pour vérifier s'il n'y a pas des objets qui nous fonceraient dessus, pour éventuellement réussir à les dévier, notamment une mission qui s'appelle DART, pour fléchette, c'est un acronyme, mais je ne me souviens plus de toutes les lettres, qui a percuté, où on a lancé depuis la Terre un petit satellite, a foncé à plus de 30 000 km par heure dans un petit... Il y avait astéroïdes qui se tournaient l'un autour de l'autre, et on a lancé ça dans le plus petit des deux pour voir si on avait à le dévier par rapport à l'autre, et afin d'éventuellement pouvoir utiliser cette protection si jamais on voyait quelque chose venir vers nous. Bon, ben, ça a pas mal marché. On a eu les premiers résultats, là, il y a quelques mois. Ça a plutôt pas mal marché. En gros, c'est de nous faire appartenir à quelque chose de plus grand que nous. De faire ressentir cette immensité et notre petitesse aussi, et notre fragilité face au cosmos. Franchement, le cosmos, c'est magnifique, splendide, mais c'est violent. Je sais plus qui a dit de la vie d'un soldat que c'est simple, il se passe jamais rien, mais quand il se passe un truc, waouh, c'est violent. Et ben l'univers c'est pareil. Il se passe jamais rien, mais quand il se passe un truc, ça y va.
Déjà parce que une étoile filante, c'est très sympa d'imaginer qu'on peut faire un vœu avec, mais qu'en réalité c'est quand même bien plus basique que ça.
Oui, mais c'est tout petit les étoiles filantes. Les étoiles filantes c'est des cailloux minuscules qui rentrent dans l'atmosphère et qui fondent. Mais on parle de choses qui font un millimètre de voilà un millimètre. J'essaie de faire avec ma main un millimètre.
Oui, je vois bien que vous essayez.
C'est ça, un millimètre qui rentre dans l'atmosphère à des vitesses phénoménales et qui se met à brûler, à fondre et qui laisse cette traînée d'air de plasma qui est derrière lui et qui disparaît après. Mais c'est minuscule, ouais, c'est un millimètre. Alors que par exemple le météore de Chicxulub, celui qui a défoncé les dinosaures, il faisait 10 km de large. Donc c'est un peu plus gros.
À peine.
À peine. Encore, c'est pas très gros, 10 km, hein, quand on y pense. Et ça a quand même eu un impact violent.
Est-ce que ça change la vision du réel que d'être en proie en permanence, justement, à une vision distancée, pour voir les choses de plus loin, de plus grand, sur un temps très différent? Est-ce que, du coup, ce qui se passe au quotidien, très anecdotique ou très éloigné, est-ce que être scientifique, ça veut dire avoir du mal aussi à être dans des préoccupations pragmatiques?
Bah, je retrouve assez rarement mon bureau à France Inter, par exemple. Je sais pas où il est.
Ça, c'est aussi parce que c'est un peu labyrinthique.
C'est un peu labyrinthique. Non, mais les deux sont réels. Peut-être que pas mal de personnes imaginent que ce qu'on fait scientifiquement, abstrait, de manière abstraite dans la tête, c'est de la science-fiction totale. Non, c'est réel.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas visuel tous les jours, quoi.
Oui, mais c'est aussi réel, oui, que la vie de tous les jours. Mm. Ce dont vous parlez, j'imagine, là, ce sont les contraintes du quotidien, notamment.
Oui, mais aussi la politique, des grands débats qui peuvent affoler les gens, alors que vous dites, oh, de toute façon, dans 1,5 milliard d'années, on sera plus là, donc autant en profiter.
Et ça vous fait rire.
Est-ce que vous le dites comme ça, dans votre livre?
Oui, c'est vrai. On va dire que je trouve que cette éducation scientifique, c'est quelque chose de politique. Je trouve que c'est extrêmement important pour une société bien portante que d'avoir une base de connaissances scientifiques actuelles solide. Pas forcément correcte tout du long, pas forcément précise, mais un sentiment, quelques bases, une curiosité, afin déjà de ne pas se faire avoir par des discours qui peuvent être complètement faux et de charlatans, que ce soit conscient ou non, et de pouvoir participer à une beauté qui est là, et de comprendre pas mal de choses. Par exemple, pourquoi est-ce que faut pas prendre d'antibiotiques quand on a un virus? C'est pas parce qu'il faut pas, c'est que ça sert, enfin il faut pas, mais ça sert strictement à rien, parce que les antibiotiques n'attaquent pas les virus. Donc c'est pas la peine d'en prendre. C'est un exemple de base, oui, oui, d'apprentissage qu'il faut savoir, qu'on peut pas deviner. On peut pas deviner ça.
Si
on est malade, bon ben je vais prendre des antibiotiques. Oui. Non, ça marche pas.
Dans votre livre, on voit bien, vous parlez d'une conscience qui nous sommes, de la place que nous occupons dans le monde, mais aussi par rapport au reste qui est autour de nous, et pourquoi, et comment, et depuis combien de temps. Vous le disiez tout à l'heure, plus on creuse, plus on comprend, plus on apprend, puisqu'en réalité, ce qu'on apprend le plus, c'est pas forcément ce qu'on voit à l'œil nu, mais ce qu'on découvre, bon, les fossiles essentiellement.
On découvre énormément de choses. Mais pardon, je rebondis juste sur le côté politique, parce que on va le dire autrement. Ma conscience politique, autre que scientifique, disons, autre que cette volonté de partager la science et de faire en sorte qu'elle soit transmise, elle m'est personnelle. Mais je considère que le savoir que j'essaie de transmettre, et qui est un savoir, une fois de plus, c'est un héritage, il est indépendant du bord politique.
Ça, c'est sûr.
Tout le monde, c'est quelque chose qui devrait être rassemblé, qui nous concerne tous. Donc c'est complètement indépendant. Et voilà.
Et néanmoins indispensable.
Et voilà.
Pour comprendre, encore une fois, en fait, la place que nous occupons dans le monde,
oui,
qui est finalement éloignée de préoccupations parfois qui semblent ridicules quand on lit votre livre.
Mais ça peut aller jusque-là, ou de se dire, comme je disais à l'instant, pourquoi il ne faut pas prendre d'antibiotiques quand on a un virus, pourquoi il faut prendre des antibiotiques jusqu'au bout quand on a une infection, et non pas s'arrêter au bout de 3 jours parce qu'on se sent mieux. Il y a quelques exemples de gars qui ont arrêté un peu trop tôt dans le bouquin, bah, ils sont morts. Ah, ça, c'est ça qui vous fait rigoler.
Non, mais
finalement.
C'est vous me faites rire, parce que dans votre livre, en fait, il y a toutes les phrases commencent par... ah ben vous avez cru que vous là vous seriez peinard, ben non, courez. Vous êtes bien installé, et ben c'est fini. Enfin, vous êtes quand même une façon d'essayer de nous réveiller un petit peu.
Oui, et ça je pense que la curiosité scientifique, elle permet de faire ça aussi. Ça fait du bien à l'esprit et au corps, absolument.
Avant de terminer, je voudrais bien que vous me disiez un mot sur ces deux bandes dessinées que je vais mettre comme ça.
Alors oui, j'ai sorti 2 bandes dessinées pour les enfants, disons à partir de 8-9 ans jusqu'à adultes, où ce sont les aventures de 2 enfants terrestres et un petit alien. L'alien, il vient d'une planète extrêmement avancée où tout le monde sait tout, sauf que lui, il est complètement nul, il comprend rien. Et il s'est perdu lors d'un examen, et il a atterri sur Terre, et il sait pas où il habite. Et du coup, avec les 2 enfants, ils vont trouver un moyen de repartir dans l'espace et essayer de le ramener chez lui et éventuellement de lui faire réussir son examen. Mais le but, c'est que du coup, c'est une découverte de l'univers tout entier tel qu'on le comprend aujourd'hui, depuis les trous noirs jusqu'au Big Bang, la façon dont les étoiles existent, les planètes naissent, ce qu'on sait de l'évolution de notre univers et de la matière noire, de l'énergie noire, un petit peu tout. C'est vraiment une initiation à la cosmologie et à l'étude de l'univers qui est autour de nous.
Sachant que dans votre livre, vous nous expliquez que ce que nous savons aujourd'hui ne servira à rien demain, puisque entre-temps, nous aurons découvert d'autres choses.
Alors justement, je ne dis pas ça, parce que le savoir scientifique qu'on a, il fonctionne non pas par une découverte qui efface ce qu'il y avait avant,
absolument.
Mais c'est une marche en plus. Par exemple, aujourd'hui, on a Einstein qui nous a expliqué comment fonctionne la gravitation lorsqu'on est dans des endroits extrêmes. Mais Einstein, quand on le simplifie pour des endroits comme la Terre, ça nous redonne Newton. Ce qui fait que les théories de Newton, ce sont ces théories-là qui sont utilisées pour faire voler des avions, pour envoyer des fusées sur Mars, pour aller partout, ça marche parfaitement. On sait comment fonctionne la gravitation d'un point de vue pratique grâce à Newton.
Oui, donc vous nous montrez bien que c'est comme une chaîne, en fait. C'est une découverte qui va renvoyer à quelqu'un d'autre qui va découvrir, qui lui-même va utiliser ça, mais en même temps qui va revenir là de cette première découverte-là. Et qui va, en fait, donc c'est vraiment, finalement, on pourrait dire une matière qui continue d'être sculptée petit à petit.
Totalement, où on rajoute des morceaux à chaque fois. Et de temps en temps, mais c'est assez rare, c'était le cas quand Newton nous a dit que finalement on pouvait comprendre l'univers tout entier et non pas de s'arrêter à la Lune, de temps en temps, il y a un nœud qui se défait dans le cerveau de l'humanité entière. Entière, d'un coup, ou assez rapidement, où on se dit « Waouh, tout ce qu'on avait vu, ça voulait dire ça, et on fait partie de quelque chose de plus grand encore, où il y a encore des mystères colossaux à trouver. » fin du 19e siècle, quelques papiers fameux ont été publiés en annonçant la fin proche de la physique. À l'époque, on savait même pas que notre univers avait une histoire, que Einstein allait venir, qu'on savait pas ce que c'était que la physique quantique, etc. Dans les années 80, même mon professeur à un moment, Stephen Hawking, avait dit qu'on n'est peut-être pas loin d'avoir une théorie du tout qui comprendrait tout. Depuis, ça a encore explosé.
On y est. Alors, non, vraiment, il nous reste une minute pour un mot de la fin, Christophe Lacar, sur le vocabulaire. J'y reviens parce que, alors on l'a dit, là, pendant une heure, vraiment, vous avez une façon de raconter les choses qui est une vulgarisation de la science qui est réjouissante. Votre livre est très joyeux et en même temps passionnant. On apprend aussi, par exemple, qu'il y a un alphabet du corps humain. Ça, c'est quand même captivant. Vous nous racontez qu'il y a un langage, que peut-être notre corps, en fait, sait dès le départ quel programme il aura.
Et ça peut bouger un petit peu, mais effectivement. Et cet alphabet, il est commun à tous les organismes vivants sur Terre, aujourd'hui et dans le passé.
Et donc, un mot sur la question du vocabulaire, donc de l'attention que vous portez au vocabulaire quand vous écrivez un livre pour les adultes, une bande dessinée pour les plus jeunes, une émission de radio. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit en préambule, hein, la science, c'est un truc qui fait un peu peur, mais parce que quoi ? Il y a une urgence ?
Pas uniquement. L'attention au vocabulaire. L'urgence, elle existe toujours, et je trouve que ça fait du bien. De toute façon, même si énormément de théories du complot l'emportent en ce moment, ou des fake news sur la science l'emportent, bon, ce sera peut-être trop tard pour nous, mais dans 100 ans, c'est foutu pour eux, parce que ça marche pas. Donc c'est la science qui l'emportera à nouveau. De toute façon, donc c'est juste dommage pour nous, dommage pour nos enfants, dommage pour quelques générations qui vont perdre du temps et qui vont partir dans des directions absurdes dont on connaît l'issue déjà. Mais il y a aussi, par rapport au choix du vocabulaire dont vous parlez, c'est le travail d'écriture de ce genre de bouquin, il est énorme.
C'est pour ça que ça prend 8 ans.
Oui, notamment parce que un mot utilisé à la place d'un autre rend la phrase fausse. Et vu que je ne veux pas mettre d'équation, vu que je ne veux pas mettre de termes techniques, vu que je veux faire ressentir les choses, il faut que je trouve la bonne limite entre quelque chose qui est vrai et qu'on va comprendre, et quelque chose qui est un peu trop compliqué parce que voilà, j'ai utilisé des termes qu'on ne comprend pas, et du coup ça ne marche plus, et dire quelque chose qui est faux. Ça, je supporterais pas de dire des choses qui est faux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des coquilles qui traînent, hein, il y en a toujours. Mais de sciemment ou par paresse d'avoir laissé quelque chose qui est faux parce que ça sonnait mieux, ça, je m'en voudrais 100 ans. 1000 ans. Allez.
Bah oui, puisque de toute façon, on n'a plus assez après. Vous avez un petit peu de temps devant. Vous avez 1,5 milliard avant que tout disparaisse. Merci beaucoup, Christophe Galfard.
Merci beaucoup à vous.